Le souper du prince.
C'est chose qui fait songer au destin des nations que de vous conter tout cela qui vient de survenir et qui marque un grand changement, un grand tournement pour le royaume. Justement ici, entre toutes places, justement à Verdun. Pourquoi ? Eh, mon neveu, parce que le royaume y est né. Parce que ce qu'on peut nommer le royaume de France est issu du traité signé ici même après la bataille de Fontenoy, alors Fontanettum. Vous savez bien où nous sommes passés, entre les trois fils de Louis le Pieux. La part de Charles le Chauve y fut pauvrement découpée, d'ailleurs sans regarder les vérités du sol. Les Alpes, le Rhin, eussent dû être frontières naturelles à la France, et il n'est pas de bon sens que Verdun et Metz soient terres d'empire. Or, que va-t-il en être de la France, demain ? Comment va-t-on la découper ? Peut-être n'y aura-t-il plus de France du tout dans 10 ou 20 ans. Certains se le demandent sérieusement. Ils voient un gros morceau anglais et un morceau navarrais allant d'une mer à l'autre avec toute la Languedoc et un royaume d'Arles rebâti dans la mouvance de l'Empire avec la Bourgogne en sus. Chacun rêve de dépecer la faiblesse. Pour vous dire mon sentiment, je n'y crois guère parce que l'Église, tant que je vivrai et que vivront quelques autres de ma sorte, ne permettra point cet écartèlement. Et puis le peuple a trop le souvenir et l'habitude d'une France qui fut une et grande. Les Français verront vite qu'ils ne sont rien s'ils ne sont plus du royaume, s'ils ne sont plus rassemblés dans un seul État. Mais il y aura des guets difficiles à traverser. Peut-être serez-vous mis devant des choix pénibles. Choisissez toujours Archambault dans le sens du royaume, même s'il est commandé par un mauvais roi, parce que le roi peut mourir ou être déchassé ou tenu en captivité, mais le royaume dure. La grandeur de la France, elle apparaissait au soir de Poitiers dans les égards même que le vainqueur, ébloui de sa fortune et presque n'y croyant pas, prodiguait au vaincu. Étrange tablée que celle qui s'installa après la bataille au milieu d'un bois du Poitou, entre des murs de drap rouge, aux places d'honneur éclairées par des cierges, le roi de France, son fils Philippe, Monseigneur Jacques de Bourbon, qui devenait duc, puisque son père avait été tué dans la journée, le comte Jean d'Artois, les comtes de Tancarville, d'Étampes, de Dammartin, et aussi les sires de Joinville et de Parthenay, servis dans des couverts d'argent, et répartis aux autres tables entre des chevaliers anglais et gascons, les plus puissants et les plus riches des autres prisonniers. Le prince de Galles affectait de se lever pour servir lui-même le roi de France et lui verser le vin en abondance. « Mangez, cher sire, je vous en prie. N'ayez point regret à le faire, car si Dieu n'a pas consenti à votre vouloir et si la besogne n'a pas tourné de votre côté, vous avez aujourd'hui conquis haut renom de prouesse et vos hauts faits ont passé les plus grands. Certainement, monseigneur mon père vous fera tout l'honneur qu'il pourra et s'accordera à vous si raisonnablement que vous demeurerez bons amis ensemble. Au vrai, chacun ici vous reconnaît le prix de bravoure, car en cela vous l'avez emporté sur tous. » Le ton était donné. Le roi Jean se détendait, l'œil gauche tout bleu et une entaille dans son front bas, il répondait aux politesses de son hôte. Roi chevalier, il lui importait de se montrer tel dans la défaite. Aux autres tables, les voix montaient de timbre. Après qu'ils s'étaient durement heurtés à l'épée ou à la hache, les seigneurs des deux parties à présent faisaient assaut de compliments. On commentait haut les péripéties de la bataille. On ne tarissait pas de louanges sur la hardiesse du jeune prince Philippe, qui, lourd de mangeaille après cette dure journée, dodelinait sur son siège et glissait au sommeil. Et l'on commençait à faire les comptes. Outre les grands seigneurs, ducs, comtes et vicomtes, qui étaient une vingtaine, on avait déjà pu dénombrer parmi les prisonniers plus de 60 barons et bannerets. Les simples chevaliers, écuyers et bacheliers ne pouvaient être recensés. Plus d'un double millier, assurément. On ne saurait vraiment le total que le lendemain. Les morts, il fallait les estimer en même quantité. Le prince ordonna que ceux déjà ramassés fussent portés, dès l'aurore suivante, au couvent des frères mineurs de Poitiers. En tête, les corps du duc d'Athènes, du duc de Bourbon, du comte-évêque de Châlons, pour y être enterré avec toute la pompe et l'honneur qu'il méritait. Quelle procession ! Jamais couvent n'aurait vu tant de hauts hommes et de si riches lui arriver en un seul jour. Quelle fortune, en messes et dons, allait s'abattre sur les frères mineurs, et autant sur les frères prêcheurs. Je vous dis tout de suite qu'il fallut dépaver la nef et le cloître de deux couvents pour mettre dessous, sur deux étages, les Geoffroy de Charny, les Rochechouart, les Eustache de Ribemont, les danses de Melon, les gens de Montmorillon, les Seguin de Clou, les Lafayette, les La Roche-Dragon, les La Roche-Foucault, les La Roche-Pierre de Bras, les Olivier de Saint-Georges, les Imbert de Saint-Saturnin, et je pourrais encore vous en citer par vingtaine. Sait-on ce qu'il est advenu de l'archiprêtre ? Demandait le roi. L'archiprêtre était blessé, prisonnier, d'un chevalier anglais. Combien valait l'archiprêtre ? Avait-il gros château, grande terre ? Son vainqueur s'informait sans vergogne. Non, un petit manoir à Vélines. Mais que le roi l'ait nommé, haussait son prix. « Je le rachèterai, » dit Jean II, qui, sans savoir encore ce qu'il allait coûter lui-même à la France, recommençait à faire le grandiose. Alors le prince Édouard de répondre, « Pour l'amour de vous, sire mon cousin, je rachèterai moi-même cet archiprêtre et lui rendrai la liberté, si vous le souhaitez. »